Le journal Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Des témoignages poignants, émotions et pardon à la cour d'assises spéciale de Paris où s'est achevée la première semaine du procès de l'assassinat du père Hamel. C'est à la une de votre journal. Les autres titres.
Le leader des séparatistes pro-russes à Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, proclame ce matin la mobilisation générale. Hier, des évacuations de civils vers la Russie ont commencé. Les États-Unis craignent maintenant une invasion russe dans les prochains jours. La situation est effectivement critique. À suivre aussi de gros dégâts après le passage de Nice dans le nord de la France. Et puis nous nous demanderons si les bus de Marine Le Pen sont un moyen légal de faire campagne électorale.
Les invités de la matinale, 7h50 dans 20 minutes, un grand champion avec nous, Karine.
Et oui, la nouvelle star du biathlon, le double médaillé olympique à Pékin, Quentin Fillon-Maillet, qui sera donc notre invité à 7h50.
Et à partir de 8h20, le grand entretien, il a quitté Marine Le Pen cette semaine, il rejoint Éric Zemmour, avec lequel il sera en meeting d'ailleurs aujourd'hui en Normandie. Nicolas Bay avec nous à 8h20.
France Inter.
La première semaine du procès de l'assassinat du père Hamel s'achève donc. Les audiences se poursuivront jusqu'au 9 mars à la cour d'assises spéciale de Paris. Les deux terroristes islamistes ont été abattus par la police le jour de l'attentat en juillet 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray. Mais trois hommes accusés de complicité comparaissent. Cette semaine, ils ont été directement confrontés à des victimes comme la sœur du père Hamel, Roselyne, soulagée d'avoir surmonté cette épreuve.
Je me sens épuisée, mais satisfaite d'avoir eu la force de pouvoir témoigner. J'étais étonnée de ne pas être impressionnée devant ces jeunes. C'est étrange, aussi étrange que nous n'avons pas connu un sentiment de haine avec une souffrance tellement de la 10e dimension. On parle toujours de la 5e dimension, mais nous, on était à la 10e, là. Je pensais que ça allait être pénible, que je n'aurais pas soutenu leur regard. Et en fait, là aussi, j'étais très étonnée de trouver cette force. J'ai espéré toute cette semaine à un moment où il y en aurait au moins un qui manifesterait soit du regard, soit d'une parole, chercher à nous dire quelque chose. Un des trois jeunes hommes a pu prononcer « Je vous demande pardon ». Je lui ai quand même confié que j'avais un peu de suspicion dans la sincérité de ses paroles, mais j'ai tenu à lui dire quand même, ça nous a fait quand même beaucoup de bien. Et c'est vrai, ça nous a fait du bien.
Roselyne Hamel, la sœur du prêtre assassiné au micro France Inter, d'Ariane Grissel. Au chapitre justice également, Nordal Lelandais ne fera pas appel de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. La cour d'assises de l'Isère le reconnaît coupable d'avoir enlevé et tué la jeune Maïlys en 2017.
Le président américain en est convaincu, la Russie s'apprête à envahir l'Ukraine.
Joe Biden parlait hier soir d'une offensive possible la semaine prochaine, voire dans les prochains jours. Dans le même temps, les observateurs de l'OSCE déplorent plus de 1000 incidents dans l'est du pays, du jamais vu depuis juillet 2020 entre forces ukrainiennes et séparatistes pro-russes. Les derniers échos sont effectivement inquiétants. Le chef séparatiste de la région de Donetsk proclame la mobilisation générale ce matin. Les leaders séparatistes ont commencé dès hier à évacuer des populations civiles vers le territoire russe. Paul Gogol l'a constaté à Donetsk.
Une sirène qui retentit dans tout Donetsk et cette panique qui a saisi la ville en quelques minutes. Doit-on s'attendre à un bombardement ou à une évacuation? C'est la question que se sont posés les habitants de Donetsk pendant plusieurs minutes vendredi. C'est finalement une évacuation qui a été annoncée par les deux leaders des régions séparatistes de Lugansk et Donetsk. À Donetsk, des habitants de villages situés sous les feux des artilleries et des proches de militaires ont été évacués dès vendredi soir vers la région de Rostov en Russie. Les séparatistes prévoient d'évacuer plus de 700 000 personnes que Vladimir Poutine a donc promis d'accueillir. Ces évacuations ne sont pas justifiées mais participe à un climat de peur instauré par les pro-russes du Donbass depuis plusieurs jours, appuyé par la Russie. L'Ukraine est accusée de nombreuses provocations qui semblent avoir été montées de toutes pièces par les séparatistes. Personne ne sait ce que la Russie entête dans le Donbass, mais il semble clair par ses actions que le président russe démontre une certaine impatience. Le manque d'avancée dans l'application des accords de paix pourrait pousser la Russie à agir d'une façon radicale. Donetsk, Paul Gogo, France Inter.
Éviter le pire, c'est la mission que se donne dans le même temps Emmanuel Macron. Le président français se lance dans un nouveau week-end diplomatique. Entretien avec son homologue Volodymyr Zelensky, homologue ukrainien tout à l'heure. Puis demain avec Vladimir Poutine, le président russe supervisera des manœuvres militaires aujourd'hui, notamment des tirs de missiles balistiques. 9 morts en Europe après le passage de la tempête Eunice et ses vents allant parfois jusqu'à 170 km/h. Pas de décès en France, mais de lourdes perturbations. Hier à 20h, 94 500 clients Enedis n'avaient plus d'électricité dans les Hauts-de-France et en Normandie. Des dégâts matériels également, comme à Marquette-les-Lille dans le Nord. Une grue de chantier est tombée sur un bâtiment désaffecté. Heureusement, est-on tenté de dire ce matin, car il n'y a eu aucun blessé. Dominique Legrand est le maire de la ville.
C'est un miracle. C'est un véritable miracle parce que cet axe-là est fortement emprunté chaque jour par les automobilistes, par les vélos, par les piétons. Et au moment où la grue tombe, pas de voiture, pas de piétons, pas de cyclistes, c'est un vrai miracle. Et pourtant, la grue avait été mise également en sécurité. D'ailleurs, cette grue, après les premiers constats de bruit de construction, avait été suffisamment et largement lestée. Elle était en mode girouette, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, pour pouvoir prendre les vents et se mettre dans le sens des vents. Et malheureusement, ça n'a pas tenu. Qui s'est couché non seulement sur le chantier, sur la chaussée, et qui est arrivé sur un bâtiment fort heureusement désaffecté de l'autre côté de la rue.
Le maire de Marquette-les-Lille, Dominique Legrand, au micro de Théo Baucher de France Bleu Nord. Et on compte tout de même 25 blessés en France après le passage de la tempête. Les excuses de la SNCF dans le journal Aujourd'hui en France. Le patron de la branche voyageurs, Christophe Fanichet, reconnaît un lancement trop brutal de la nouvelle application mobile SNCF Connect. Beaucoup d'utilisateurs se sont plaints de bugs ou encore d'une interface trop compliquée. Cela doit être corrigé d'ici la fin mars.
Et un week-end de campagne électorale.
Le premier tour de la présidentielle, c'est dans 50 jours tout pile. Vous allez peut-être les croiser sur vos marchés, les bus du Rassemblement National à l'effigie de leur candidate Marine Le Pen. Il y en a 12 qui sillonnent la France depuis la semaine dernière. Mais ce moyen de faire campagne est-il légal ? Élodie Forêt, au moment des élections régionales, des candidats RN avaient été retoqués par la commission des comptes de campagne pour avoir justement utilisé des bus ou des camping-cars.
Sébastien Chenu, Andréa Cotarac, Alexander Nikolic, tous ont subi la même déconvenue, des milliers d'euros de frais rejetés. En toute logique, les bus Le Pen pourraient aussi être retoqués en vertu d'un article du Code électoral qui interdit, 6 mois avant l'élection, tout affichage en dehors des emplacements réservés. Une aberration pour le RN qui a déposé des recours pointant les précédentes campagnes où des bus floqués avaient circulé librement. Aberration relevée aussi par le sénateur centriste Michel Canévet qui a récemment posé une question au gouvernement à ce sujet et qui explique la jurisprudence date des municipales quand l'ancien maire de Quimper, Ludovic Jolivet, a été condamné par le tribunal pour sa ludomobile. La commission des comptes de campagne décide alors de ne plus rembourser aucun frais lié à ce genre d'opération. Pour Michel Canévet, il y a là une interprétation trop restrictive du code électoral. Il a déposé un amendement qui sera examiné la semaine prochaine. En attendant, le RN, lui, ne compte pas stopper ses bus. Au pire, on paiera, soupire un cadre.
Élodie Forêt du service politique de France Inter. Et puis un nouveau meeting d'Éric Zemmour prévu également aujourd'hui. Le candidat Reconquête sera devant le Mont-Saint-Michel. Terminons ce journal au Royaume-Uni. Il y a un an, une œuvre de Banksy est apparue sur le mur de la prison désaffectée de Reading. Un cadeau fait à la ville car le célébrissime artiste veut aider la municipalité à transformer l'ancienne prison en un centre culturel. Mais la notoriété de Banksy ne suffit visiblement pas. Richard Place est allé à Reading pour France Inter.
En passant, les automobilistes jettent un œil sur ce mur d'enceinte en briques rouges à côté d'un rond-point, plus précisément à la peinture recouverte d'un plexiglas strellé. On y voit un détenu s'évader, il descend le long d'une corde faite de textes sortis d'une machine à écrire. Encore aujourd'hui, au pied du cadeau de Banksy, Heather Snaith est émue. Elle mène la campagne pour transformer cette prison en centre culturel.
Il a complètement changé l'ampleur de notre campagne en offrant de vendre le pochoir de cette œuvre pour recueillir 12 millions d'euros et soutenir l'offre du conseil municipal. Cette générosité va au-delà des mots.
Des mots, le conseil municipal aimerait quand même en échanger quelques-uns avec Banksy. Mais depuis l'apparition de l'œuvre et le message d'authentification, plus rien. D'où la supplique de Tony Page, l'élu local en charge du dossier.
S'il vous plaît, parlez-nous. Nous avons le même objectif. Nous acceptons volontiers votre soutien, mais nous avons besoin de plus d'informations de votre part. Nous sommes un peu perdus. Nous aimerions travailler plus étroitement avec lui.
Oscar Wilde avait été incarcéré dans cette prison à la fin du 19e siècle. Sa cellule existe toujours. Dans cette enceinte se trouve peut-être aussi la tombe du roi Henri Ier, mort en 1135. Londres, Richard Place, France Inter.
Dans le journal de Raphaël Delvolvé, pardon Raphaël, vous revenez tout à l'heure pour un nouveau journal, ce sera à 9h, le temps.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Golinski, la tempête Eunice s'éloigne désormais vers les Pays-Baltes.
Ah, exactement, mais il va quand même rester du vent à 100 km à l'heure cet après-midi le long de la Manche, vers 80 du nord de la Loire au nord de la Seine, avec une déclinaison pluvieuse de plus en plus marquée en fin de journée sur toute la moitié nord du pays. Le franc soleil sera pour le quart sud-est, où Mistral et Tramontane seront turbulents, ils vont maintenir les nuages à écart. En revanche, le long des Pyrénées, l'ambiance va rester quand même assez maussade et même neigeuse à moyenne altitude, temps gris et pluvieux neigeux également ce matin du massif central de Jura et en Rhône-Alpes. Mais globalement, les éclaircies seront durables en seconde partie de journée entre le Dauphiné, le Grand Est, la Loire et la Garonne. Mais terminée la douceur enregistrée hier en toute région, aujourd'hui les maximales vont baisser sensiblement avec ce matin des gelées de 0 à moins 3 degrés sur les régions centrales.
Jean-Michel Golinski, Météo France.